Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 41e Instant Sport, votre magazine d'actualité sportive lausérienne, nationale et internationale. Laurent Julien est bien à l'heure et en forme. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Ça va Laurent ?
Nickel.
Un peu de Carthagène ce week-end ?
Non, pas du tout.
Non, un week-end sage ?
Non plus.
Non plus.
Donc, mais pas de Carthagène.
On ne veut pas savoir ce que c'est alors. Journaliste sportif à la Lausère Nouvelle, Patrick Biancone, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Bon, tu comprendras, Patrick, que l'on ne parlera pas de Coupe de France dans cette émission. Par contre, on pourra revenir sur le choc des Olympiques d'hier, et je crois qu'il y a un peu à dire.
Mais oui, c'est vrai, parce que tu as perdu à Marseille, tu as réussi cet exploit-là, quand même, avec ton équipe de Montpellier
de
perdre, voilà, ton équipe de Montpellier de perdre à Marseille, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. Bon, voilà. Ouais. Montpellier qui va mal, hein, relégable.
Ouais, on parle de René Girard.
Et puis voilà, et puis il y a eu le fils Nicolin, le fils à Loulou, Laurent, qui a fait du Loulou en interview, qui a balancé du graveleux, donc c'était assez intéressant à écouter.
Ouais.
J'en ai peint les couilles, je ne sais pas ce qu'il a dit, enfin, bon, il a fait un peu comme son père. Ouais.
Journaliste sportif à Midi Libre, il a connu un match difficile ce week-end avec le BCM. Luc Respond, bonjour.
Très difficile, bonjour.
Alors c'est pas bien grave vu que Mons a perdu. Il monte en régime lui avec 11 points sur ce même match. Capitaine du BCM Aurélien Lacasse, salut.
Bonjour à tous.
Alors par contre des observateurs m'ont indiqué que tu n'étais pas encore au top.
Ah je veux des noms alors, va falloir que tu balances.
Non, je donne pas de noms. Luc Respond. On va en parler aussi. Notre invité du comité de volley est surtout là pour parler du MVL, Christian Barthier, bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Alors Christian va parler bien sûr du MVL qui continue avec une très bonne opération ce week-end, une nouvelle on pourrait dire. Hein.
Oui, bien sûr, une victoire 3-7-0 contre une équipe de Pigouzon, c'est handicapé quand même par pas mal d'absence.
Voilà, 3-7-0, 25-13, 25-13, 25-21.
Voilà, là c'est le bon score, parce que la semaine dernière...
C'était pas le bon.
Je confirme, ouais. tu as pas donné le bon score.
On peut pas toujours être top.
Un méchant copier-coller, je pense.
C'est ça. En plus, c'est un peu la revanche, hein, Pigouzon.
Oui, alors si vous voulez, donc la seule défaite du Mans de volley Lozère, donc de l'équipe de N2 cette saison, c'était à Pugouzon. Une salle spéciale, une belle équipe de Pugouzon, hein, qui est restée longtemps 4e, 5e, à la lutte avec Alès pour accéder aux play-offs. Et qui là, malheureusement, donc sur cette fin de saison, a eu deux mutations professionnelles il y a 15 jours de ça. Une prévue, l'autre non. Et se sont rajoutées, quand tout va mal, deux blessures. Alors en plus, dans l'équipe de samedi, là, il y avait trois joueurs de l'équipe de pré-national.
Ah d'accord. En plus, ce qui est bien, c'est que, bon, on l'explique souvent dans cette émission, on garde les points pour la deuxième partie. Et vu que c'est la seule équipe contre qui on avait perdu, et qu'il reste qu'un match, puis Gouzon ne peut plus accéder à cette deuxième phase.
Exactement.
Donc le MVL va attaquer la deuxième partie de saison avec le maximum de points.
Si tu gagnes à Toulouse.
Oui, il reste encore un match.
Ah, il reste encore.
Oui. Parce que Toulouse, oui, on est sûr, là, avec Aurélien aussi, on avait raison. Donc on vous a battu à plate couture une fois de plus. Et non, mais si, il faut gagner à Toulouse, parce que comme Toulouse va se qualifier pour les playoffs, si tu perds à Toulouse, tu partiras pas avec le maximum de points.
Non, mais c'est gagné déjà.
Tu confirmes, parce que, ici, quoi, on chauffe. chaque lundi, on sort la calculette. Ouais. Bon, il faut pas les nains, mais presque, pour comprendre le volleyball maintenant. Donc,
mais
en tout cas, bon, voilà.
Même qu'il y ait une défaite à Toulouse, il y a quand même un maximum de points. Je pense que dans l'autre poule, il doit pas y avoir d'équipe qui auront autant de points.
Non, ça c'est clair. Tu vas commencer la deuxième phase, papy, même sans parler de ce match à Toulouse, tu vas commencer la deuxième phase avec, en tête, avec le maximum de points par rapport aux autres équipes des autres poules.
Alors justement, on connaît les quatre qualifiés. Aurélien, notre spécialiste classement.
Voilà, donc j'ai révisé mes classements. Donc pour le volet, Mende est premier avec 36 points, Arles second 27 points, Alès troisième 23 points, et donc Toulouse Toactuc quatrième et dernier qualifié avec 19 points.
Luc.
Christian, on connaît un peu le niveau des adversaires qui vont jouer contre le MVL dans la deuxième phase.
Sans parler du niveau, les équipes.
Le niveau.
Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, on a un match très important la semaine prochaine à Toulouse. Donc dernier match.
Dimanche,
15h. Donc parce que Toulouse, on est certain, donc les quatre équipes que vous venez de citer là sont bien dans les play-offs. Donc on est certain qu'ils vont être avec nous. Donc il faut les gagner parce que c'est 3 points qu'on conservera si on les gagne à 3 points en deuxième phase. En face, premier Monaco, président d'honneur le prince Albert, qui a décidé de monter au plus haut niveau, et son équipe fille, qui est première en National 2, et son équipe garçon, qui est premier donc dans la poule.
La poule A.
Ils ont un milliardaire russe pour chaque sport, Monaco ils en ont au basket, ils en ont au foot.
Pas encore pour le volley, mais bon, ça pourrait venir.
Ils ont fait le plein à Monaco comme membre ou pas?
Les équipes se sont...
C'est bon pour nous.
Ouais. Tout à fait. Alors, logiquement...
Tu vas sortir en tête en principe. Tu vas sortir premier.
Attaquer un premier.
Voilà. Ouais. Logiquement, si Montpellier bat Marseille, parce que les quatre qualifiés risquent d'être, donc, enfin, Monaco sûr.
Sure.
Deuxième, Montpellier, très très grosse équipe,
la réserve de la Ligue 1.
Ouais. C'est très gros, puisque Montpellier, s'ils gagnent leur match en retard en Ligue 1, sont premiers de Ligue 1 actuellement. Donc troisième,
Marseille
aujourd'hui.
Alors je coupe, Montpellier, ils peuvent monter, malgré que ce soit une réserve?
Oui. Alors, ils ont le choix, contrairement à nous, si nous, le Mende Volley, on avait la chance d'être premier. On est obligé de monter, sinon on est rétrogradé de deux divisions.
Ah, ils pas, hein.
Par contre, tous les centres de formation, eux, ils ont le choix. Et ils ne nous le diront pas.
Ils le disent à la fin.
Ah, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il me semblait qu'au volet, on devait annoncer en début de saison si on montait ou pas. Oui, mais justement,
pas les équipes réserves.
Il y a pas un peu de poids de mesure, quand même.
Il y a deux poids de mesure. Les centres de formation ont tous les droits. Au niveau du recrutement, nous, on est limité à trois mutés. Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ce cas, donc, de monter... ils font ce qu'ils veulent.
Et la quatrième équipe, ça va se jouer entre la réserve de l'Arago de 7, donc là aussi qui fait un super début de saison en Ligue 1. Hein,
ouais, ils sont premiers aujourd'hui.
Voilà, qui est premier aujourd'hui.
Ou alors
la réserve de Nice, où on sait qu'il y a Kevin Velay, dont le frère Anthony joue à Mende, bien évidemment. Ouais. Et donc voilà, ça va se jouer entre les deux, mais 7 a priori est mieux placé que la réserve de Nice.
7 va jouer Cagnes-sur-Mer, qui maintenant est systématique en play-down, donc voilà. L'Arago de 7, pour être tranquille pour sa fin de saison, va gagner le match contre Cannes, voilà. Je suis persuadé. Voilà. C'est malheureux pour Kevin Velay,
ça aurait fait un match intéressant, les deux frères face à face.
Il y avait de quoi écrire. Alors, oui.
Mais en principe, ça ne se produira pas, il y a très peu de chances que ça se produise, parce que comme tu le dis, 7 va gagner ce dernier match et va passer en play-off.
Alors moi, je ne suis pas un spécialiste volley comme Patrick, mais j'ai l'impression, à vous entendre, que cette poule de Monaco, Marseille, 7 est un peu plus relevée que celle de Mende, je me trompe ou pas?
J'ai un peu l'impression quand même, papy, non?
Ouais.
Enfin, moi, c'est personnel.
Je dirais aussi que c'est sûrement plus relevé. Et moi, je suis très inquiet. Monaco sera une grosse équipe, mais surtout Montpellier. Il y a quatre jeunes joueurs de Montpellier qui jouent régulièrement en pro A quand même.
Et il n'y a que le premier, il faut le dire. Il n'y a que le premier qui montera. Si tu finis seconde, tu es cuit.
Et si la réserve de Montpellier, par exemple, finit première et décide de ne pas monter?
Ça sera le second.
Et si le second est la réserve de 7 qui décide de ne pas monter,
ça sera le troisième.
Laurent.
Oui, alors du coup, ces équipes réserves au play-off, elles ont le droit de faire jouer des pros? Comment ça se passe là? Parce que
les pros ne descendent pas.
D'accord, donc déjà, c'est quand même
mieux.
Tu verras pas un coup doux avec Marseille comme ça.
Non, mais pour dire actuellement, tu as déjà 15 points. Tu sais déjà que Mende Volley Lozère va attaquer la deuxième phase avec 15 points. Et si tu gagnes à Toulouse, donc avec 3 points, c'est-à-dire 3-0 ou 3-1, tu attaqueras avec 18 points sur 18, c'est-à-dire le maximum que tu pouvais faire dans cette première phase.
Logiquement, on le saura que la semaine prochaine, mais logiquement, on devrait partir avec deux matchs d'avance.
Voilà, c'est confortable. C'est ça, avec l'avance que Mende va avoir sur les autres équipes, ça laisse quand même de beaux espoirs, j'imagine, pour.
Tiens, des jokers.
Voilà, je pense qu'on aura deux jokers. Bon, il faudra voir un peu les équipes, le niveau. Bon, ça fait quand même faire brouiller les vidéos que c'est, quoi.
Ouais.
Parce que souvent, on se dit en sport, c'est pas très bien de commencer avec une poule facile, parce que quand on arrive dans des matchs plus difficiles, on n'est pas toujours prêt. Finalement, pour nous, c'est bien, parce qu'on arrive avec des points d'avance. Facile, je me comprends. Moins difficile.
Ouais, bon, quand on prend quand même les quatre premiers, Arles, la réserve d'Alès qui est excellente cette année, et, bon, et la réserve de Toulouse, c'est pas rien non plus. Hein. Je dirais pas qu'il y a un gros écart entre les deux poulets. Même.
On ne le sait pas.
Il y a un petit écart a priori, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué à savoir, mais bon, c'est sûr que bon, il y a quand même des équipes comme il dit. Bon, Toulouse, ça joue quand même aussi la première joue en première division et va se maintenir sans problème, va peut-être faire les playoffs en Ligue 1.
Et ils avaient quand même pris une fessée au match aller.
Bah, on avait gagné 3-7 à 0. 3-0 à l'aller.
3-0, oui, parce que j'avais vu croiser les joueurs à un certain, je me rappelle, ils étaient désabusés.
Ouais, peut-être. Luc, t'étais arrivé pour le match, il était défini.
Voilà, c'est ça.
On peut aussi dire que le MVL, cette année, a une équipe expérimentée aussi, avec des joueurs qui ont joué en Ligue 1, en Ligue B, ouais. qui ont un bon niveau, qui sont aussi habitués à ces matchs de haut niveau et à ces matchs un peu couperés.
Alors bon, c'est sûr que Constant Choisy, là, notre entraîneur, a fait un recrutement de super qualité, puisque Angelo Teno, donc qui arrive de la Pro B de Saint-Quentin, est un passeur qui nous amène vraiment outre sa qualité de passeur, mais il amène en plus du dynamisme.
Ouais.
Du dynamisme. Ali Kerboa, quand même, qui était encore il y a 6 mois capitaine de l'équipe d'Algérie. Il faut quand même le préciser. Bon, c'est un garçon très très calme, très intelligent. C'est
du coup, il joue plus en équipe d'Algérie, malgré qu'il soit à Mende.
Il peut être appelé en équipe d'Algérie.
Il peut être appelé.
Ah oui, il peut être appelé. Bon, c'est un garçon, il sait exactement où c'est qu'il met le ballon. C'est extraordinaire. Et puis on a le meilleur, Carlos Anthony, qui arrive de Ligue A. Il a joué en Ligue A, donc il est arrivé du Brésil il y a 6 ans. Il joue en Ligue A depuis qu'il est arrivé en France. Et il s'est fait une très très grave entorse à la cheville. Donc il est resté 8 mois sans jouer. Et là, il est en train de se reconstruire. Et donc c'est un garçon qui petit à petit remonte en puissance. Il est très très prudent par rapport à sa cheville. En particulier quand il passe devant. Et, bon, il attaque beaucoup en pipe, c'est-à-dire derrière les 3 mètres. Donc là, on voit qu'il est au-dessus. Quand il arrive devant, il est encore très très prudent par rapport à... Enfin, il ne veut vraiment pas se blesser, mais il monte en puissance.
Quel âge il a ?
Il a 27 ans.
D'accord. Aurélien,
Même s'il reste un match contre Toulouse qui est assez important, j'imagine que vous avez quand même la tête à cette deuxième phase. Comment vous la préparez, cette deuxième phase ? Est-ce que vous avez vu des vidéos de vos adversaires ? Est-ce que vous étudiez un petit peu leur jeu ? Comment ça se passe ?
Alors là, vous savez, on a affaire à un entraîneur que vraiment je veux mettre en avant. Il fait un boulot que les gens ne s'imaginent pas. Il a déjà plusieurs cassettes de toutes ses équipes. Il connaît déjà tout le monde. Et puis, il connaît les entraîneurs. Il a un relationnel énorme. Et je peux même vous dire qu'il y a il y a de ses copains qui vont voir jouer ses équipes et qui, de visu, lui donnent des conseils. Non, c'est... Vous inquiétez pas pour ça. Et justement, l'expérience de notre équipe, c'est le plus qu'on va avoir par rapport à ces centres de formation où les gars sont capables, si on prend l'équipe de Montpellier, c'est énorme, cette équipe. C'est énorme. Mais ils sont moins expérimentés que nous, donc il faudra les jouer.
Elle attaque quand, cette deuxième phase ?
Elle attaque le week-end du mi-février. Là.
Ah, ça attaque tout de suite, en fait.
Voilà, il y a week-end où il n'y a rien, et puis on attaque.
Donc c'est le week-end du 13 et 14.
Luc, c'est vrai qu'on l'a reçu, plusieurs fois, Constant ici. Il faut quand même souligner le travail qu'il fait depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps qu'il est au club, que
ce soit... Constant, ça doit faire 6 ans qu'il est là. Il est arrivé comme joueur.
Et c'est quand même un entraîneur qui a pris le temps et à qui on a laissé le temps de construire une équipe malgré la descente l'année dernière, malgré les dirigeants laissent une grande confiance.
Il faut savoir aussi que Constant Choisy passe régulièrement des diplômes. Il est brillant, il termine chaque fois premier. Et au jour d'aujourd'hui, il lui reste plus que le diplôme. Alors, j'ai pas ça en tête, un diplôme professionnel à passer. Il y a tous les autres diplômes, donc il est très haut niveau.
Donc, moi, ce que je veux mettre en avant cette année, c'est que les dirigeants ont pris la décision de recruter, bon, tu l'as dit, Papy, des joueurs avec un CV quand même bon, brillant. Bon, tu es quand même en N2 et tu cites des gars qui ont joué au plus haut niveau du volleyball national et international. Mais bon, voilà, donc ça se répercute sur quoi ? C'est que tu as un effectif qui est beaucoup moins étoffé que ce qu'il a pu être les saisons précédentes. Alors, tu as la chance, pour l'instant, d'avoir été épargné par des grosses blessures,
c'est-à-dire
par des joueurs qui peut être absent un mois ou un mois et demi ou deux mois. Donc ça tu ne l'as pas connu cette année. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut. Je pense que bon, pour vous, c'est le sujet le plus anxiogène que vous pouvez avoir, c'est justement d'avoir cette tuile, un joueur majeur qui se blesse, qui va te rater 3 ou 4 matchs d'affilée. Et donc ça serait vraiment très pénalisant. En particulier maintenant que tu vas attaquer cette deuxième phase, et bon, bien sûr, il faut toucher du bois et espérer que tu sois épargné par ces blessures jusqu'à la fin de la saison.
Voilà, c'est bien notre crainte, hein, je me permets, et c'est pour ça que donc aussi Constant Choissy a eu l'intelligence de s'adjoindre les services de David Julien, donc en tant que préparateur physique. Ouais. Donc lui, il est également préparateur physique, Constant, mais bon, ça en fait deux, c'est pas de trop. Et comme ça, au moins, on essaye de minimiser les blessures. Pour l'instant, on touche du bois, mais c'est vrai que ce que tu dis, Patrick...
Par contre, David, il est plus à l'aise avec des skis de fond au pied qu'avec un ballon de volée, hein, vous prévenir.
Ouais, c'est pas lui qui n'aura pas à faire des matchs, c'est sûr.
Laurent, toi qui...
Il s'est débrouillé pas mal à voler. Ouais, David, il est pas mauvais. Non, il est pas mauvais, croyez-moi.
Laurent, toi qui as les adresses des plus grands de ce monde, faudrait que tu penses à écrire au Prince Albert qui nous reçoivent pour le match à Monaco.
Oui. Hein ah oui, on va essayer.
Faut qu'on chope la date.
On va essayer de choper.
On pourrait se faire une petite soirée.
Ouais, je me suis renseigné justement. Donc, le match à Monaco, c'est le dernier match. Donc, ça risque d'être important.
Le match de la montée, le match de la saison.
En plus, ça peut être le match de la saison.
Et comment t'as pu te renseigner
c'est fin avril.
Et on ne sait pas encore.
Et si, c'est tout, il le sait.
Et okay. Si Mende est sûr de finir premier, Monaco est sûr de finir premier de sa poule aussi. Donc,
ils ont déjà fait le.
Donc, un A contre un B.
Ça risque d'être au mois d'avril.
C'est assez rare.
Fin avril.
Fin avril, il fera pas mal, Monaco.
24 avril.
Ah, mais je suis dispo, moi.
Ouais, moi aussi.
Bon, allez.
Ouais. On a posé la date, hein. Ça fait depuis le début de la saison qu'on le dit. Hein. Ce match à Monaco, on le rattrape pas.
Luc, Christian, comment vous faites ? Il y a un secret, comment vous faites pour le garder constant ? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui le sollicitent et qui vous sollicitent. C'est comme l'Eiffel qui garde Laurent, c'est pareil.
Là, c'est... je sais pas, il faut le lui demander. Je pense qu'il y a deux facteurs, quoi. Hein. Sa femme, donc, est. Il est prof de maths au lycée Notre-Dame.
Ouais.
Il a quand même 3 enfants aussi, Constant. Et je pense que la qualité de vie lausérienne leur plaît.
Je pense aussi qu'il est reconnaissant. Bon, tout ce que le club a fait pour lui, bon, c'est vrai qu'il donne énormément au club, mais bon, le club aussi, quand même, est là, a répondu présent. Et donc, je pense que ça, il a connu, à mon avis, pas mal de clubs aussi dans sa carrière sportive. Et donc, quand tu as connu pas mal de clubs, tu peux justement comparer, voir ce que tu as eu ailleurs, ce que tu as maintenant. Et donc, je pense qu'il est conscient aussi de tout ce que le MVL lui apporte à tout niveau, aussi bien sportif que dans sa vie tout court.
Je sais que joueur, il a notamment joué en Allemagne, il a été international camerounais, il a joué en France beaucoup. Effectivement, il a des clubs, il en a fait quelques-uns.
Peut-être qu'il a envie de se poser aussi, hein, comme tu disais. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ?
Cependant, quand il aura ses diplômes d'entraîneur professionnel, peut-être ça sera une autre
mission. Ouais, bien sûr. Et
je ne le souhaite pas.
N'importe quel entraîneur, tu lui proposes de réintégrer le circuit professionnel, c'est sûr qu'il va se poser la question.
Je peux vous dire qu'en foot, c'est de quoi on parle. Voilà.
C'est sûr.
Non, mais il est énormément sollicité. Quand il y avait le père Ngapet, là, qui est toujours, qui entraînait en Russie et tout, et il le voulait avec lui, etc. Bon, il est très, très sollicité.
Il va peut-être écrire 5 pages à Manchester United pour le faire signer en tant qu'entraîneur, comme José Mourinho. En tout cas, super saison, on a suivi ça avec attention et on attend maintenant depuis de longs mois, parce qu'on voit que rien ne peut arrêter dans cette poule le MVL. On attend cette deuxième phase et qui sera encore plus intéressante que la première et c'est très bien. Beau match de la réserve qui allait gagner chez le leader.
Ah, alors là, ça a été la surprise de la soirée.
3-7 à 2.
Ouais, 3-7 à 2, un ASBAM invaincu, ASBAM Montpellier donc. Invaincus chez eux, qui veulent impérativement, qui vont pouvoir accéder. Ça fait 3 années consécutives que l'ASBAM est premier de pré-national. Mais comme son équipe 1 est en National 3 et ça fait 3 ans qu'il termine second, impossible de monter. Donc du coup, cette année, l'ASBAM 1 caracole en tête de sa poule de N3. Donc l'ASBAM 2 va pouvoir monter. L'ASBAM, c'est devenu le plus gros club du Languedoc-Roussillon.
Ils sont talonnés par Béziers quand même, hein. Il va falloir qu'ils se
3 points d'avance sur Béziers.
Ouais.
Et sur Saint-Christol-les-Alès, tiens, qui a 23 points aussi, pas mal, hein, à 4 points. Je savais pas qu'il y avait, c'était une terre de volée,
Saint-Christol. Saint-Christol, c'était un club de, c'était le club de filles. Et là, au jour d'aujourd'hui,
tu dis que l'ASBAM est la première équipe de la région.
Un nombre de licenciés.
Un nombre de licenciés, c'est ça.
Il y a une dynamique dans ce club là qui est absolument phénoménale.
D'accord.
Des entraîneurs de très haut niveau chez les petits. Ils sont champions de France Benjamin. Ils sont. Bon, c'est énorme.
Le monde volley-ball n'est pas. Le monde volley-lozère n'est pas en reste non plus au niveau de ses autres équipes et de ses entraîneurs, quand même.
Oui, disons que. Oui, on fait notre petit chemin.
Justement, on va parler des féminines aussi. On en parle chaque semaine. On a reçu un mail plein de fois dans cet instant sport. Les féminines qui font un super parcours hein, en régional, qui ont gagné encore 3-7 à 0 contre Metz, mais qui restent quand même deuxième derrière Béziers à 3 points. Donc ça, c'est quoi? C'est les bonus, hein, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Ouais, parce qu'ils ont, elles ont le même nombre de victoires.
C'est ça. On a deux victoires à 3-7 à 2. Alors que donc Béziers, quand leur victoire sera 3-0 ou 3-1, donc 3 points au lieu de 2. Et c'est vrai que donc Amal Baïch, là, arrive avec un groupe, on va dire, à maturité. C'est-à-dire, ce sont des filles qu'elle a prises quand elle est arrivée à Mende, il y a maintenant aussi 6 ans, je crois, qu'Amal est là. Et donc, c'est un groupe voilà, qui arrive à maturité. Et on espère vraiment qu'elle va arriver à les faire monter en pré-national. Mais c'est difficile, parce qu'en filles, il y a du niveau. Il y a 3 poules de régional. Et donc les deux premières de chaque poule vont se rencontrer et il en montera que deux. Hein.
Et oui.
Donc attention, c'est pas fait.
Elles ont joué contre Béziers cette année.
Oui, c'était le week-end dernier. Ouais.
C'était le week-end dernier.
On a perdu 3-7 à 1 et on les avait battus 3-7 à 2 ici. Ouais.
Par contre, il y a Latte qui se rapproche aussi.
Mais elles ont un match de plus, Latte.
Oui, d'accord, mais elles sont pas loin. Quoi.
Ouais.
Il faut finir.
Ça devrait le faire parce qu'on a.
Tu finiras dans les deux premiers.
Voilà. On garde les points aussi, non marge. C'est pas comme ça, par contre.
Non, pour les filles. Non. Le système.
Il faut passer. Non, mais il faut, après,
voilà, c'est entre les six premières que ça.
Donc, du coup, battre Béziers, un match. Tu disais le premier contre le deuxième.
Non, des différentes poules.
Trois poules, voilà. Il y aura un nouveau championnat, six équipes.
Ah, okay. Voilà. En fait, il faut savoir que la personne qui s'occupe de faire les championnats à la Fédération de volley est un ancien ingénieur de la NASA. Hein, donc du coup, c'est des trucs un peu compliqués.
Ouais, absolument.
Alors, juste en deux mots et souligner qu'on parle souvent des seniors féminines, de la réserve, etc. Il y a aussi un énorme boulot qui est fait chaque année depuis très longtemps. Avant c'était avec Maxime Meunier, maintenant c'est Antoine Couturier. Auprès des jeunes et le MVL est un vrai vivier de jeunes pour les jeunes volleyeurs.
Merci Luc. Ouais.
Voilà, et en tout cas bravo pour le MVL qui sur tous les tableaux cette saison est bien. Hein. Il y a la pré-nationale qui est à peu près au milieu du classement, mais bon, ça, c'est pas vraiment problématique. Ils sont surtout là pour se faire plaisir, j'imagine.
C'est le but d'être
c'est ça, de
avoir, pas descendre. Avoir une équipe en pré-nationale, pour nous, c'est important, parce qu'il faut, il y a certains garçons, là, on espère qu'on pourra les intégrer dans l'équipe 1, c'est le but. Donc le niveau pré-national, c'est le meilleur pour nous, quoi.
Il y a notamment deux jeunes qui ont été sélectionnés pour les volleyades, hein, c'est ça
Alors, deux jeunes de 15 ans, ouais. Donc dans la sélection régionale à Languedoc-Roussillon pour participer aux volleyades. Je te rappelle, c'est le championnat de France des sélections régionales.
Je te rappelle que tu côtoies à peu près tous les jours un ancien grand espoir du monde volley Lozère aussi.
Ah ben c'est un ancien, parce que là, quand je le vois le lundi, il n'est pas prêt à rejouer. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Tu restes avec nous, on va parler des autres sports. Et on suit, bien entendu, le volley. On passe aux choses sérieuses maintenant avec le basket. Combien cette fois-ci? 92-54 pour Alès. Alors Aurélien, c'est quand même dommage parce qu'à la mi-temps, il n'y avait que 38-32. Et un troisième quart-temps catastrophique, 36-11.
C'est ça, on fait une bonne première mi-temps.
Code d'Alès.
On fait une bonne première mi-temps où on tient le choc. Bon, il faut savoir qu'on commence le match en encaissant un 7-0. Donc on a eu du mal un petit peu au démarrage. Mais bon, après un temps mort, on a su se remettre en question, commencer à imposer notre jeu et notre rythme. Et là, on a réussi à marquer des paniers, à revenir au score sur le premier quart-temps et même dans le deuxième quart-temps où on passe devant. Effectivement, on arrive à la mi-temps juste avec 6 points de retard. Donc première mi-temps encourageante, ouais.
Et de toute façon, il y a un indicateur dans cette équipe. Quand Luc marque pas, vous pouvez pas gagner. Je le sais.
C'est ça. C'est un petit peu, on va dire, l'étalon de l'équipe. On s'étalonne sur ses performances.
Mais c'est vrai, Luc. Dernière victoire, 4 points.
Non, mais tu as pas eu la chance de le voir hier. Il était complètement détruit. Il était détruit physiquement. Il se balançait d'avant en arrière pour se décontracter le dos. S'est fait malaxer par les pivots alésiens. C'est pas possible.
On va remettre les choses dans leur contexte. les pivots alésiens, certes, mais il y a une activité du dimanche entre midi et deux qui m'a pas facilité l'amélioration de mon état physique et la récup.
Ouais.
Non, mais on a eu un vrai trou d'air. Je pense qu'il y a eu une coupure générale de la lumière au BCM pendant 10 minutes.
Et alors, vous avez joué dans le noir et bim.
Non, ça a été.
Le problème, c'est qu'on était la seule équipe dans le noir.
Les autres,
la lumière. On a pris. Franchement, on a pris pendant 10 minutes une démonstration de. Honnêtement, enfin. Voilà, de basket, les mecs ils nous ont mis une paire de dunks sur la tête, enfin bref.
Ouais. 11 points Aurélien, c'est bien quand même. Tu reviens, 8 points la semaine dernière, 11 points là, tu montes en régime.
Merci, je sais pas si je monte en régime, en tout cas c'est dans mes moyennes habituelles quoi. Donc,
t'as 20 points normalement.
Non, ça c'est toi qui le dis, c'est faux, c'est totalement faux. tu me surestimes un petit peu je crois.
Mais non.
Et donc sinon pour en terminer sur le match, c'est vrai que le troisième quart-temps... Moi, personnellement, j'ai trouvé aussi qu'il y avait eu un changement d'arbitrage, c'est-à-dire que toute la première mi-temps, on arrive à imposer notre jeu, les arbitres sifflent les fautes, donc
attention à Laurent Coulon.
Vous êtes lourd,
attention Laurent.
Il vient de faire une sortie de route. Et puis le troisième carton, les arbitres ne sifflent plus rien.
Il y a eu des coups francs injustifiés, des hors-jeux pas sifflés, c'est ça?
Non, il y a eu quelques coups de coude, arrachage de bras et
ça c'est le basket, c'est normal. Autres,
vous savez qui est le président du club d'Alès? C'est Jean-Michel Aulas.
De basket.
Peut-être.
En tout cas, on s'en fiche.
Il s'appelle Gérard Martin, il est très sympa. Il a tendance à gueuler sur les arbitres, sur le bord de touche. Je le connais, ça fait 20 ans que je le connais.
Non, mais surtout, il y a à la mi-temps une remontée de bretelles dans le vestiaire alésien, et donc ce qui explique le début Tony Truand, le troisième quart-temps de cette équipe alésienne.
C'est ça.
Je me suis renseigné et je pense que l'entraîneur a vraiment poussé un coup de gueule dans le vestiaire.
Non, je suis même pas sûr, parce que je le connais un peu, l'entraîneur, puisqu'il coachait les filles les années précédentes. Je suis pas certain. Non, ils ont accéléré et nous on a juste perdu notre jeu en fait. Non, on a juste perdu tout ce qu'on avait fait en première mi-temps.
Donc, tout ça pour dire en fait, donc l'arbitrage ne sifflait plus les fautes, mais c'était dans les deux sens. Donc nous aussi, on faisait des fautes qui sifflent pas. Je veux pas dire qu'il a avantagé une équipe.
L'arbitre.
Non, l'arbitrage a été cohérent. Il a juste changé pendant le troisième quart-temps. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, quand ça devient un peu plus rugueux, un peu plus difficile, on répond pas forcément présent. On a beaucoup plus de mal.
Bon, ça va, Laurent a retrouvé la route.
La route. Ouais. On s'en fiche, Mons a perdu à Lunel 54-37. De toute façon, prochain match
le 6 février contre Nîmes à domicile.
Ok, 6 février Nîmes et Mons, alors c'est quand à domicile? Parce qu'on va tous venir là.
C'est en fin de saison.
C'est mi-avril.
Mi-avril, je suis à Monaco.
Ah ouais.
Désolé.
Il y a Mons et Moggio qui se suivent, donc on joue contre...
Ouais, c'est vrai qu'il y a Moggio aussi.
L'avant-dernier et l'avant-avant-dernier.
Moggio, il faut y aller aussi, Laurent.
Moggio, il faut y aller, il faut qu'on gagne.
Hein, pas de Carthagène, on sera là à l'heure.
Oui.
Handball, Coupe de France féminine, le handball Nord-Lozère se qualifie pour les 16e de finale après sa victoire contre la Ricard-Marie 20-17. Alors toi aussi Laurent, tu as gagné contre la Ricard-Marie ce week-end, mais une bouteille à zéro seulement.
Non, lui c'est la Ricard-Manie.
Moi j'ai perdu ce week-end.
Je crois que c'est la Ricard qui a gagné en fait.
Ouais.
Alors les filles qui étaient menées 5-11 à la mi-temps quand même et qui gagnent 20-17, Luc, un super match des filles de Florent Baudin.
Ouais, une super deuxième mi-temps surtout.
Super deuxième mi-temps.
Je l'ai eu au téléphone Florent, effectivement.
Ils ont mieux géré la deuxième mi-temps, c'est ça.
Ouais, il a pas trop compris.
il a gueulé dans les vestiaires.
Ce qui se passait, 5 buts, je crois que 5 buts marqués en une mi-temps, c'est le plus faible total
du siècle.
De l'histoire du club.
C'est l'enjeu, hein.
L'enjeu, le monde, il y a le stade était le stade gymnase. Le gymnase de Saint-Alban était plein à craquer. 200.
Tu vas prendre un coup de fil.
À peu près 200 d'après.
Tu vas devoir t'excuser la semaine prochaine.
C'est vrai que t'as pas trop excusé cette semaine.
Ah oui, non, c'est vrai.
Ça va nous manquer.
En tout cas, sur Facebook, j'ai vu des très belles photos du match du public.
Moi aussi.
Donc tu as pu les côtés. Il y avait plus de 40 personnes. Bravo aux spectateurs.
Surtout une deuxième mi-temps où les filles un peu cadres de l'équipe ont pris les choses en main. Une très grosse partie de leur gardienne, de la deuxième gardienne, donc Mélina Soult, qui apparemment leur a bien tenu la baraque pendant la deuxième mi-temps. Je crois que Florent m'a dit qu'il avait quasiment pas fait tourner de toute la deuxième mi-temps son set. C'est les sept filles qui étaient sur le terrain. Et elles reviennent à égalité à 10 minutes de la fin. Et puis elles font un 4-0 pour terminer et pour se qualifier.
Patrick ?
Non mais excusez-moi, je suis obligé de revenir un peu au basket parce que je viens de me rendre compte de quelque chose. Donc c'est sur les petites feuilles que distribue notre ami Ludo en début d'émission.
Non, il n'y a pas de feuilles, tous les classements je les connais par cœur. Hein.
Non mais sur la feuille que j'ai sous les yeux, donc en fait, tu n'étais pas à l'aise.
Si, j'étais.
Et non, parce qu'il y a marqué Luc Crepson. Donc
c'est mon cousin américain.
Ouais, j'ai décidé de changer, c'est plus classe, tu vois, pour un basketteur. Crepson.
Pardon pour l'handball. Revenons à handball.
Allez, revenons à handball. Bon, mais voilà, elles se qualifient pour elles sont qualifiées après ces 16e de finale. Elles jouent à l'extérieur maintenant, Luc, c'est ça?
Oui.
Plus de matchs à domicile.
Plus
en Coupe de France.
Matchs à domicile. En fait, c'est 16e et 8e de finale se font sur la même journée. Donc avec les différentes équipes. Donc il y a deux solutions.
Il va falloir faire tourner là.
Le tirage au sort c'est cette semaine. Effectivement, il va falloir faire tourner. Et donc d'après Florent, il y a deux possibilités. C'est-à-dire soit elles jouent en Rhône-Alpes, donc comme jusqu'à présent parce que là elles étaient tournées côté Rhône-Alpes, soit côté PACA, côté Marseille, tout ça. Voilà, c'est les deux options qu'il peut y avoir au tirage au sort pour l'équipe les filles du handball Nord-Lozère.
Mais c'est pas le même jour, c'est le même week-end plutôt, non?
Ah, il m'a dit matin. C'est le matin, seizième et l'après-midi 8e. Et
matin après-midi.
C'est l'équipe la plus fraîche finalement.
Le dimanche et demi.
Ça doit pas être la même durée de match parce que le volley connaît ça. Mais bon, tu joues que 2-7. Tu fais trois équipes.
Dès qu'il y a trois équipes, on joue à 2-7.
Ouais, donc, ça m'étonnerait que tu puisses.
Là, ils jouent en 2-7 aussi, ouais.
Deux fois une heure. Non, mais peut-être que tu joues.
Tu
joues 42 minutes. Voilà.
42
minutes par mi-temps.
Heureusement que c'était pas le cas. Le tour, sinon ils n'auraient pas gagné.
Non, mais j'ai essayé, mais ça me paraît complètement fou de faire deux matchs de une heure la même journée.
Oui, on va se renseigner.
Si Florent nous écoute, on va envoyer un message.
Prénationale masculine, le match en retard qui paraissait facile pour le MGC, mais qu'il fallait absolument gagner pour passer en tête du championnat. Et au final, les Mandois n'ont pas tremblé. Ils gagnent 30-28 à Ramont avec un 16-9 à la mi-temps.
38-20
à Ramont avec un 16-9 à la mi-temps. Donc voilà, Patrick, les Mandois qui ont leur destin entre leurs mains maintenant.
Il y a eu un début compliqué parce que au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il n'y avait que deux buts d'écart pour Mande, et donc par contre il y a une fin de première mi-temps totalement débridée en faveur des Mandois, donc ce qui explique ce score quand même assez sévère dès la fin de première mi-temps. Puis une deuxième mi-temps, ça a été une promenade de santé, il faut le dire, avec le pivot roumain assez exceptionnel,
puisqu'il
a fait 9 sur 9 au tir, donc
9 sur 9. C'est un joueur qui est défensif à la base. Hein.
Énorme performance. Et donc le MGC, c'était le dernier match aller, est en tête après les matchs aller. Et donc avec la meilleure défense. Hein. Et de très loin, c'est l'équipe qui a pris le moins de buts depuis le début de la saison.
D'accord. Christian, tu suis les autres clubs un peu, demande ?
Oui, moi je suis sportif dans l'AMA, donc je suis tous les sports. Et les sports mandois, un peu plus que les autres, bien sûr.
Ouais. Grand spécialiste de VTT, hein, Christian. Il a son VTT, il part de partout.
Vélo de route aussi.
Il carbure.
Il a même fait l'étape du Tour de France une fois.
Ouais, je fais l'étape du Tour. J'ai joué un peu au basket quand j'étais étudiant. Enfin, bref.
Ah ben, il faut revenir. Hein. Sans mal,
ils ont besoin de joueurs à droit.
Classement Aurélien, que le début hein, du classement, on s'en fiche du reste. Duande.
Alors, le classement, je ne l'ai pas en tête. Je pense que, Laurent va m'aider.
Non, il n'a pas en tête non plus. Je ne l'ai pas mis. C'était un piège. Allez, ils sont premiers. En rugby, promotion honneur, Mende était exempt ce week-end.
Attends, mais j'avais des choses à dire sur le hand.
Vas-y, bien sûr.
Sur le hand. Moi, je voulais faire un petit point mi-saison quand même.
Oui.
Puisque ça fait des matchs
allés. On est à la mi-saison. Donc, Mende est premier à la fin des matchs allés. Il faut noter que Fabien Marty est le troisième meilleur buteur du championnat. À mi-saison avec 75 buts et Mende est la deuxième meilleure attaque du championnat avec 344 buts marqués et meilleure défense avec 250 buts encaissés seulement, donc ils ont le meilleur goal average.
Et si je ne me trompe pas, bon, ils ont deux points d'avance sur le second.
Oui, parce que tu as une défaite de moins que les deux seconds qui sont Agde et Cheminot.
T'as vu Laurent, prends-en de la graine, bosse un peu le week-end comme Aurélien
d'ailleurs, deuxième parce que second c'est quand il n'y a pas de troisième.
Très bien.
Ils vont recevoir Agde et Cheminot Limoges, je ne sais pas.
Ils vont à Agde. Et là, le week-end prochain, ils vont à Clermont-Lérault, donc Salagou.
C'est ça.
Ils avaient éclaté en match aller à Mende, où ça avait été
une boucherie.
Une boucherie. On avait fait du pâté des gardois.
Ouais.
Les éroltés,
c'est la goût. Les filles, on a des nouvelles ou pas?
Eh ben, j'ai pas réussi à avoir le sport. Du coup, elles jouaient à Pont-Saint-Esprit, un match qui est toujours difficile là-bas. Des filles très accrocheuses. Cette fois-ci, elles sont pas parties à 5. Elles devaient partir à 10, elles ont doublé l'effectif en une semaine, mais j'ai pas réussi à avoir le score, donc désolé.
Ok, ben on va voir si on nous écoute dans cette émission.
Tu as échoué dans ta mission. Oui. Tu peux t'excuser.
Mais je m'y suis pris à midi 17 aussi. Donc.
Est-ce que tu pourrais t'excuser de ne pas avoir eu le résultat?
Je suis navré.
Alors, rugby, promotion honneur, Mende était exempt ce week-end et du coup, sans jouer, se retrouve à 8 points du premier, mais avec un match de moins. Peut-être qu'Aurélien a le classement du rugby en tête.
Je l'ai en tête, je l'ai étudié ce week-end. Moi, après le match de basket, j'ai passé mon samedi soir à étudier le classement.
C'est très bien.
Donc, premier, Cruzy Saint-Chinian, 34 points. Deuxième, Nissan Colombier, 33 points. Troisième, Vinassan, 32 points. Quatrième, Toche Corbière, 30 points. Et donc, cinquième, Mende, 26 points, mais avec un match à moins.
Voilà, ça paraît compliqué quand même, Patrick. Hein.
Ben oui, parce que l'écart se creuse un peu, même s'il y a un match en retard. Un match en retard, tu marques 4 ou 5 points, donc tu vois que tu remontes pas quand même à la première place, même si
tu gagnes qu'une place.
Voilà, exactement. Et donc dimanche, tu as un match importantissime, énormissime contre Toche Corbière en déplacement, une équipe que tu avais largement dominée au match aller avec le point de bonus offensif. Donc bon, voilà, espérons que enfin cette première victoire à l'extérieur va venir.
En football, l'FL se reprend et gagne hier 3-1 contre la Grande Motte. But pour l'FL, Gourma 19e, Rebelosso 57e, Diédiou 94e. La Grande Motte qui marque juste avant la mi-temps à la 41e par Diaby. D'où une très bonne blague sur internet de Laurent qui demandait s'il n'était pas blessé. Bonne opération, moi je vois tout. Car en supériorité numérique pendant toute une mi-temps, Frontignan n'a pas pu gagner à domicile face à Bagnols-Pont. Et du coup, même avec son match en retard, ne peut plus dépasser l'FL. Et même résultat pour Perpignan OC, 0 partout à domicile contre Montferrier, donc encore une surprise. Narbonne par contre s'impose largement à Perpignan-Bavernay, 6-0 et talonne Mende au classement. Aurélien.
Au classement, Mende premier 43 points, deuxième Narbonne 40 points, troisième Frontignan 38 points mais avec un match en moins, quatrième Perpignan OC 37 points mais aussi avec un match en moins, et cinquième Aigues-Mortes 34 points.
Voilà.
Le trou est fait après.
Alors Patrick, Luc, vous étiez au match hier.
Ouais, et puis on voit Bagnols qui est un des favoris pour la montée aussi, qui a 34 points, qui est déjà un petit peu...
Qui est un peu décroché. Ouais.
Ouais, moi j'ai vu principalement la fin du match. C'était pas le plus beau match de foot de l'histoire. Un terrain un peu difficile, un terrain assez...
gras.
Une pelouse assez grasse avec pas mal de glissades des joueurs. Les Mendois qui se sont fait peur, je pense. Je pense qu'ils auraient pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. Bon, il y a ce but dans les toutes dernières secondes parce que l'arbitre a sifflé la fin du match sur l'engagement.
Ouais.
Je pense qu'ils se sont fait un peu peur sur la fin de match malgré la supériorité numérique.
Bon, ouais, je dirais pas tout à fait ça comme ça. Moi, j'ai vu le match en intégralité. Et, bon, honnêtement, le gardien de la FL a eu zéro arrêt à effectuer tout au long du match. Vraiment, c'est pas bien sûr pour dévaluer sa performance, bien évidemment, mais n'importe qui aurait pu être un gardien de la FL hier, tant la Grande Motte, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu d'arrêt. Bon, voilà. Donc, par contre, ce qui est vrai, c'est que l'AFL a du mal à tuer ses matchs. Bon, donc ils ont marqué un but au bout de 20 minutes sur un super centre de Nabi Zanina, un super centre brossé. Bon, Rebolosso, gêné par un défenseur, a pas pu le toucher. Bon, Fadil, bien sûr, un buteur hors norme, a été présent, il a contrôlé la poitrine, et après il met un shoot sous la transversale, bon, plein de sang-froid, comme il sait super bien le faire. Et donc, après cette ouverture du score, bon, l'AFL aurait dû dérouler, c'est-à-dire marquer au moins un deuxième but avant la mi-temps, et au lieu d'avoir ce scénario-là, donc non seulement tu marques pas le deuxième but, alors que tu en as la possibilité, mais tu te fais égaliser sur, bien sûr, Aigues-Mortes pouvait marquer que là-dessus, sur un coup de pied arrêté, donc complètement excentré. Bon, par le numéro 10, par contre, qui a tiré le coup franc de la Grande Motte, qui était incontestablement le meilleur joueur de son équipe, un gaucher, petit, vraiment une technique vraiment soyeuse, vraiment un excellent joueur qui m'a fait une superbe impression. À Grande Motte, pour moi, c'était incontestablement le meilleur joueur. un oubli de marquage, et donc ils égalisent. Et donc, du coup, ben voilà, tu es 1-1 à la mi-temps et tu sais pas trop comment ça va tourner. Bon, heureusement, tu arrives à marquer ce deuxième but. Encore une fois, une inspiration de Fadi, il faut le dire. Un but, une passe décisive. Bon, il met un amour de ballon, il y a un super appel de Rebolozo, mais il met un super ballon entre les défenseurs. Et donc, ben, l'attaquant, ce qu'on voit de moins en moins, hein, Laurent, il dribble le gardien. En principe, toujours les attaquants tirent avant de dribbler, mais là, il a dribblé le gardien. Et donc, après, c'est, bien sûr, c'est plus facile. Il avait plus qu'à pousser dans le but vide. Et donc, c'est vrai que là aussi, à 2-1, tu as les possibilités de marquer 3-1. Donc là, après, tu es complètement à l'abri. Mais là non plus, tu n'y arrives pas. Et donc, après, ben, c'est sûr qu'il y a eu tout un tas de coups francs après. Alors, des coups francs à 30 mètres sur les côtés, ben, les mecs, ils envoient dans la boîte. Il peut y avoir un cafouillage, il peut y avoir une main, comme tu as eu à Frontignan. L'arbitre peut s'y faire un penalty. Et donc, c'est vrai que tu aurais pu finir à 2-2. Parce que ce troisième but vient toute fin du match. Et donc, dire que tu as eu peur. Bon, j'irai pas jusque là, parce que vraiment, la Grande Motte n'a eu quasiment aucune occasion, mais c'est vrai que tu trembles parce que tu peux avoir un coup du soir contre toi. Voilà,
c'est pour ça. C'est là où je te dis, voilà. Ils ont pas eu peur, mais ils se sont fait peur, parce que quand t'as ce coup franc, alors je crois que c'est une faute de Mboup, là.
Oui, une faute inutile, un tacle par arrière, il prend un carton jaune.
Il prend un carton jaune, derrière, ça fait un coup franc, et tu l'as dit tout à l'heure.
Il y a un magma de joueurs,
T'es pas à l'abri, voilà, tu te fais peur dans la mesure où t'es pas à l'abri de sur un coup de pied arrêté. C'est vrai qu'effectivement, c'était le seul moment où les joueurs d'Aigues Mortes pouvaient, de la Grande Motte pouvaient marquer. Ils ont quasiment pas eu d'occasion. Mais sur un terrain qui était glissant, là, t'es pas à l'abri d'une glissade, d'un sale but. Alors qu'effectivement, tu avais les moyens et les possibilités de te mettre à l'abri. Ils ont eu quelques occasions.
Il y a un tir de Fali excentré qui est sauvé sur sa ligne par ce fameux Diaby, justement, qui a égalisé. Donc bon, voilà. Puis il y a eu d'autres situations aussi. Bon, le gardien de la Grande Motte, lui a fait 3-4 arrêts, quoi. C'est une chose que notre ami gardien de l'AFL, lui, n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'il n'y a pas eu de tir cadré, quoi.
Mais c'est vrai que tu trembles un peu en te disant, il suffit de pas grand-chose pour que finalement la Grande Motte reparte avec le match nul et toi à perdre
deux points. Mais c'est souvent ça dans cette division.
Juste avant que Laurent intervienne, je souligne le gros boulot de Dorian Rebolloso, qui fait un boulot énorme, qui est de tous les duels, de tous les contacts. C'est lui qui
il court de partout.
C'est lui qui sort le dernier ballon là, sur le dernier coup franc de la tête. Il est tout le temps au duel, il est très présent.
On va l'inviter. On l'a pas eu encore.
Alors c'est vrai que ça fait totalement le pendant avec. Je me souviens plus son Garbi, son prénom, je me souviens
Yanis.
Yanis. C'est vrai que quand tu les vois jouer, c'est totalement au l'opposé, parce que Yanis Garbi, il est technique, il a une technique, c'est vrai, au-dessus de la moyenne. Mais bon, on dirait pas qu'il c'est un folan. Donc il a pas cette activité, il a pas ce volume de jeu. Et bon, c'est vrai qu'il fait un bon début de match, puisqu'il met un super tir qui est arrêté de la tête par le gardien. Ça aussi, j'ai jamais vu. Le gardien plonge, le ballon flottant, il voit qu'il peut pas l'avoir de la main, et il sort le ballon alors qu'il est à l'horizontale. Il sort le ballon de la tête. Bon, il est KO sur le coup. Pendant 30 secondes, le jeu s'arrête parce qu'il prend le ballon. J'ai jamais vu ça. Et bon, donc pour dire que Garbi a fait un bon début de match, mais c'est vrai que ça suffit pas, et à 40e minute, le coach le fait sortir, et bon, il fait rentrer Ibrahima Diédou. Et bon, voilà, donc c'est vrai que il y a vraiment deux façons de jouer de ces deux attaquants autour de Fadi. C'est vraiment deux façons de jouer.
Ceci dit, que ce soit contre Bagnoles ou contre la Grande Motte ce week-end, c'est pas des terrains qui avantagent un garçon comme Yanis Garbi, qui est très technique et qui joue beaucoup sur des petits espaces.
Le coach pose son empreinte, alors, s'il prend des décisions comme ça à la 40e.
Voilà, c'est vrai que c'était un moment fort, et bon, on peut pas dire vraiment que Garbi était un échec, puisque bon, il était là, il faisait des passes, il avait décoché cette belle frappe, mais voilà, on sentait quand même que le coach avait besoin d'un garçon qui fasse les allers-retours, qui fasse un pressing, qui vienne défendre. Et c'est vrai que bon, vu sa façon, il est beaucoup moins rapide, beaucoup moins speed que Rebolloso, et donc c'est vrai que le coach a fait sortir.
Ok. Non, je voulais juste préciser. Oui. Vous avez parlé du gardien Johan Musi, qui a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. C'était juste pour dire un petit mot pour les défenseurs de l'AFL qui se démènent. On parle que des attaquants, de Dorian. Mais ça fait quelques semaines que les défenseurs de l'AFL se se mettent en valeur et donc je voulais leur rendre un petit.
Enfin, ils ont pris un but alors qu'il n'y a pas eu d'occasion apparemment.
Ouais, bon, ouais, il y a une erreur de marquage sur le coup franc.
Excusez-moi.
Mais c'est vrai qu'il y a eu. Non, mais tu as raison de le dire. Moi, j'ai trouvé un gros match de la défense, en particulier de l'axe central. Bon, Tessier de Freitas, ça a vraiment envoyé du lourd. Ouais. Il y a eu un gros match. Alors, c'est vrai que bon, le seul bémol aussi, mais on en parlait après à la fin du match. Un peu les observateurs, un peu tout ça. Et c'est, bon, voilà, un peu au milieu de terrain, c'est vrai que bon, voilà, le plus gros chantier actuellement, alors il y a des joueurs absents, hein, puisque Fofedel n'était pas là, bon, Thibaut Barandon est blessé depuis un moment.
Jérémy Brassac.
Voilà, Jérémy Brassac qui s'est fait opérer la semaine dernière.
Il s'est fait opérer en fin de semaine dernière, il part un mois à Cap-Breton.
Qui ne va pas revenir tout de suite.
Et non, il ne reviendra pas tout de suite, c'est sûr, mais un jour il reviendra.
C'est le secteur en chantier, et d'ailleurs, bon, c'est vrai que le coach est un peu obligé de jongler, puisque quelqu'un comme Nabil Zanina, qui à l'origine quand même plutôt un milieu défensif, bon ben là il joue vachement offensif, même sur un côté. Donc voilà, c'est vrai que c'est obligé. D'ailleurs, il a été excellent. Bon,
il est sorti blessé d'ailleurs.
Il est sorti parce qu'il avait une contracture à Frontignan. Bon, vu
qu'il y a des places qui vont se libérer,
il te manque des joueurs.
Il
te manquait des joueurs, donc c'était compliqué de se passer de lui. Quoi. Et donc il a fait l'effort de jouer.
Et pour revenir sur ce que disait Laurent sur la défense centrale, il faut aussi dire que ces dernières semaines, la défense, d'ailleurs, pas que centrale, a été largement remaniée, hein, puisque entre les blessures, les suspensions, etc., le coach a quand même jonglé pas mal en faisant descendre par exemple un garçon comme
Nicolas Andréo qui était dans l'axe central contre Bagnol.
Contre Bagnol, avec Johan Robert latéral gauche.
D'ailleurs, je pense que Nicolas Andréo, d'après ce que j'ai cru entendre, est suspendu pour le week-end prochain au Canet.
Ah, je ne savais pas, mais ce n'était pas étonnant.
Match au Canet donc la semaine prochaine, oui. J'avais demandé.
Dimanche prochain, déplacement au Canet, l'équipe qui t'a battu en Coupe de France.
Voilà. Oui. Parfait, en tout cas, Monde a son destin entre ses pieds pour une fois, parce qu'on n'était pas sûr avant le match de Frontignan.
Tout à fait.
C'est réglé. La réserve continue sa dégringolade avec une défaite à domicile 3 buts à 1 contre Nîmes. Lassalien se retrouve 11e sur 13. Marvejol est en forme, gagne un but à 0 contre Lunel, but de Diallo à la 73e. Au classement, sur les 4 premiers, Aurélien,
3e.
Deuxième ex aequo,
s'il te plaît. Aurélien, classement.
Premier, 7, 40 points. Deuxième, Marvejol, donc 39 points. Troisième, Béziers, 39 points. Quatrième, Montpellier-Petit-Bar, 33 points. Et cinquième, Nîmes-Soleil-Levant, 32 points.
Voilà, ça va se jouer entre ces trois équipes, la réserve de 7, Marvejol, voilà. Et la réserve de Béziers, donc contre deux réserves.
Deux réserves et Marvejol, ouais. Chapeau à Marvejol.
C'est étonnant, ils font un super début de saison. C'est plus qu'un super début de saison, saison.
Ils ont perdu un seul match de championnat depuis le début de l'année.
Ouais, c'est énorme.
On est un peu déçus, ils n'ont marqué qu'un but.
Alors qu'ils ont la meilleure attaque de la poule.
C'est pas pour rien que la semaine dernière j'ai voté pour eux pour le sportif de midi libre de l'année quand même.
Eh oui.
On en est où là, ça, là, on a les résultats.
Fin de semaine.
Il y a eu 31 janvier.
Il y a eu 8 votes, dont 4 de l'instant sport.
Ouais.
On va voir.
8,5. Un enfant a voté.
Oui, DH Auvergne, match en retard. Les énélistes chutent à domicile dans les dernières secondes face au leader Itrac de but à 0. But à la 90e et 93e. Ben, c'est dommage. Hein.
C'est une mauvaise opération.
Mauvaise opération.
Surtout dans un championnat aussi serré, puisque avant le début du match, entre le premier et le dernier, il y avait 5 points.
Je
crois que c'est du jamais vu dans l'histoire d'une division comme ça.
Je crois que maintenant il y en a 6.
Ouais, voilà. Donc, c'est
ce que j'ai regardé tout à l'heure. Et les deux derniers ont un match de retard.
Je crois que les deux derniers doivent jouer l'un contre l'autre. Je crois que c'est Saint-Flour, Domera.
Donc si l'Entente de Lozère avait battu Itrac, ils se retrouvaient premiers. Puisque Itrac en gagnant, c'est eux qui sont premiers.
Sauf
qu'ils se retrouvent pratiquement relégables.
Et ouais, c'est ça.
C'est du jamais vu, ça.
Ah non, c'est du jamais vu. 5 points d'écart entre le premier et le dernier, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est un truc de fou. J'ai rarement vu ça dans les championnats aussi sérieux.
Jamais vu.
Ça les fait pas rire.
Ah oui, ça c'est clair. J'imagine que ça.
Surtout.
Doit avoir les sueurs froides.
À la 90e, 93e.
Le problème de cette équipe, c'est une inefficacité offensive. Hein. Ouais. Bon, très peu de buts depuis le début du championnat.
Ils ont récupéré leur attaquant.
Il y a du mal à se débloquer.
Bon, ça fait quasiment plus de 6 mois qu'il était absent. Donc, il faut peut-être un petit peu de temps.
Il faut le temps pour revenir en place. Il pourrait prendre Laurent coach physique pour se remettre
préparateur.
Puis jouer sur leur nouveau stade synthétique à Saint-Alban.
Allez, on finit par deux informations. Badarou qui gagne 4 buts à 0 contre Rodillon et reste 6e à 6 points du leader. Et en championnat de France UNSS Cross Country, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Le Crespon?
Eh bien, les jeunes Lozériens du collège du Haut-Gévaudan de Saint-Chély qui ont été sacrés, champions de France. Des sections sportives et vice-champion de France UNSS, donc l'équipe emmenée par, par Gérard Brouillet et Benjamin Kerosch, donc qui a réussi ce beau petit exploit. C'était dimanche à Nantes.
Ça mériterait d'être cité dans le palmarès des sportifs de l'année, ça.
Alors, si tu suivais de façon un petit peu, tu verrais qu'il y a Athlée Lozère, donc, dont une grande partie des jeunes sont issus de la formation du Haut-Gévaudan et de Saint-Chély, hein, qui a été cité.
Je m'excuse auprès de Midi Libre
pour ses résultats, justement, en championnat de France. Fédéral, cette fois. Okay. Championnat de France fédéral, ouais. Voilà.
Mais je sais pas si c'est le froid, mais à Saint-Chély, ça fait courir. Hein,
puis, c'est compliqué, hein, quand même, ouais, de nommer des gens qui sont champions de France en janvier pour une sélection qui est faite fin décembre.
Janvier 2016,
c'est pas super facile.
Il faut anticiper, Luc. Hein.
Ah oui,
c'est vrai. C'est
ça, hein. Pour revenir un peu sur le foot, tu parlais de Badarou. Le classement de Badarou est un peu plus élevé parce que il faut enlever tous les points attribués à Nîmes Cheminba, la réserve, qui a été exclue, qui a été mis hors course par le district pour des problèmes de discipline. Donc le district Arloser a décidé d'exclure cette équipe. Donc tous les résultats de Nîmes Cheminba sont annulés, donc ce qui fait qu'il y a une équipe de moins, et donc ça modifie totalement le classement que tu as donné. Donc je crois que Badarou est troisième ou quatrième, en fait.
Ouais, il est bon, hein. Il est bon, c'est Patrick. Mmh. Ok, allez, une pause musicale et on vous parlera de football après, aussi de handball, hein, c'est le championnat d'Europe, et on fera un pronostic basket NBA, tiens, parce que ce soir il y a un gros match. On va vous en parler, allez, et c'est pas Portland.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planting lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pain.
Sweet.
Allez, on est reparti dans cette émission. Luc, je crois que tu as quelque chose à dire.
Oui, j'ai une confirmation donc qui nous vient directement de l'entraîneur des filles du handball Nord-Lozère, Florent Baudin, qui nous explique donc que les deux matchs se joueront bien la même journée avec une durée de match normale. C'est-à-dire que si les filles jouent leur 16e de finale à 9h30, elles joueront, et qu'elles se qualifient, elles joueront le 8e à 16h, d'où l'importance donc d'avoir un banc un peu conséquent pour pouvoir enchaîner les deux matchs.
Mais c'est n'importe l'après-midi. Quoi, le règlement est mal fait.
On est d'accord.
On avait raison, Luc.
Cela dit, pour les deux équipes, c'est la même chose. Donc,
ceci dit, c'est n'importe quoi pour les deux équipes.
Ouais. On est jeune, on peut jouer deux matchs
pour les journées. Pour les quatre équipes, puisque.
Oui, pour tout le monde.
Les quatre équipes d'ailleurs.
Non, mais vous, n'importe quoi. Jouer deux matchs dans une journée.
Je ne sais pas quel âge elles ont, les joueuses de Saint-Chély, toi.
C'est pas faux.
Elles sont jeunes,
on peut donc dire que le type qui s'occupe de faire les compétitions un peu farfelues du volley s'occupe aussi du basket. Du hand. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Allez, il est quelle heure? Il est 1h25. Ouh, yaya, 5 minutes. Bon, mais on va accélérer un peu. Les résultats, on va pas les donner de la Ligue 1. On va juste dire que Marseille 30 points, Lyon 30 points, égale le nombre de points de Paris qui en a 60. Le match des Olympiques, moi j'ai vu que la première mi-temps. Oh, c'était enjoué, mais ça m'a pas emballé plus que ça pour regarder la fin du match.
Il y a un beau match, il y a un joli match.
Mais c'était un joli match.
Ouais, il y a des actions.
Beau stade, hein, quel beau stade.
Voilà, quel beau stade. Il y a eu un match quand même correct avec deux équipes qui ont essayé de gagner.
Bel arbitre.
Bon, voilà, quelques décisions contraires. Contre Marseille, bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même certaines décisions les week-ends précédents qui avantageaient Marseille, il faut le reconnaître. Bon, mais là, ça a avantagé totalement Lyon. Il y a eu un grand Mandanda qui a fait ce qu'il fallait. Mais bon, Marseille aurait pu marquer puisqu'il y a eu un poteau de Batshuayi, un sauvetage sur la ligne d'un défenseur de Lyon sur la tête de Rolando. Donc Marseille aussi a eu des grosses occasions. Et puis des faits de jeu, un carton rouge à Morel qui n'a pas été sorti par l'arbitre. Un but refusé à Batshuayi alors qu'il n'était pas hors-jeu. Et puis, bon, le coup franc qui amène le but de Lyon, la main de Manquillo, bien sûr, qui est absolument pas, puisqu'il touche le ballon de la poitrine.
9 points de la deuxième place, on peut dire adieu à la...
Non, ça va être très compliqué, parce que Marseille est trop irrégulier, quand tu vois d'une semaine sur l'autre, d'un match sur l'autre.
Et Lyon?
Les différences, bon, Lyon non plus, enfin, je vois pas un gros Lyon non plus, quoi.
Luc? Ce
sera bien Angers en tour préliminaire de la Ligue des Champions.
Oh bah écoute, de toute façon, ceux qui sont en préliminaire, ils se qualifient
par
jamais.
La troisième place est totalement ouverte, hein, aussi bien pour Lyon que pour Marseille. Les deux premières places, à mon avis, seront bien sûr, la première est inaccessible. La deuxième devait être plus bien. Mais par contre, n'importe qui peut finir troisième, que ce soit Angers, Saint-Etienne, Rennes, Marseille, Lyon. Voilà, pour la troisième place, c'est ouvert.
C'est vrai que pour la deuxième place, sans faire de bruit, Monaco, ils se sont placés et ils ont maintenant 3 points d'avance sur le troisième et 5 sur le
Monaco quatrième. Aussi, qui a quand même les deux premiers buts qui sont absolument pas valables, puisque le premier est hors-jeu et le deuxième, le ballon est sorti.
Ouais. Deux pénaltys non sifflés pour Montpellier. Oui,
moi, j'ai vu les 25 dernières minutes, j'ai vu un joli Lyon. Hein. Puis j'ai surtout vu la fiche technique après, avec quand même une domination de Lyon.
Possession de balle, oui.
Dans la possession de balle, dans le nombre de tirs aussi.
Oui, le nombre de tirs aussi, oui.
Et oui, non, mais il faut savoir que Patrick est de mauvaise foi quand on parle
de
l'OM. Hein.
De toute façon, dominer n'est pas gagné, je veux dire, c'est pas...
Ouais, oui. Moi, je trouve quand même de mieux en mieux, Lyon. Il y a Fekir qui va pas tarder à revenir aussi.
Il leur manque un Fekir.
Voilà.
Ils en ont vraiment besoin.
Ouais. Même le match en coupe qu'ils ont fait contre le PSG, je trouvais qu'ils étaient assez incisifs.
Fekir, il va revenir, mais alors avant qu'il soit compétitif, messieurs, vous pouvez attendre quelques semaines. Hein.
Mmh. Allez, moi, je donne Lyon deuxième.
Ah, ouh, très bien.
Bon, il n'y a pas de risque.
Nous, on peut rien dire.
T'as de l'argent? Est-ce que t'as de l'argent sur la table? Parce que c'est plus pareil, là.
Ouais, ils ont trois victoires de moins. Mais c'est possible. Nous, on a déjà fait les paris en début de saison, donc on revient pas dessus. On les entendra dans quelques semaines. Ils sont bien au chaud, ouais. Je crois que, je sais pas si on était très bons.
Non, je pense pas, ouais.
même sur les relégables, voilà. Je crois qu'on est très
bons. La France gagne le Bélarus 34-23, championnat d'Europe qui est premier, mais avec un match de plus. Bon, on va pas dire plus que ça. Voilà, on fait notre chemin. Défaite contre la Pologne à l'extérieur, parce que c'est la Pologne.
Il y a une mauvaise nouvelle, parce que la Norvège a battu la Pologne. Donc, il faut absolument que mercredi à 6h15, tu battes la Norvège de 4 buts, sinon tu passes pas.
Ouais, sinon tu passes pas, ouais. C'est ça.
De 4 buts, 4 buts, ouais.
Eh oui, parce que
c'est l'avantage parti.
Les 3 équipes. On est premier.
Oui, mais c'est un match de plus. C'est un match de plus.
Ah oui, t'as un match de plus.
Et donc, c'est-à-dire que tu vas te retrouver en principe 3 équipes, en battant la Norvège, 3 équipes égalité. Mmh. Donc il n'y en a que 2 qui passent, donc ça va se jouer au goal avantage particulier. Donc tu as quand même pris un éclat énorme contre
la Pologne.
Contre la Pologne. Donc il te faut battre la Norvège d'au moins de 4 buts.
Ouais, ouais. Mais vous avez vu le but de Thierry Omeyer?
Ouais, enfin c'était le Bélarus en face. Ouais.
Non, contre la Croatie.
Ah, non, c'est la Croatie, pardon. Oui, mais enfin bon.
Mais bon, c'est possible, c'est possible de battre la Norvège de 4 buts, parce que bon, la Norvège, c'est quand même pas ni l'Espagne, ni la Danemark, ni l'Allemagne, qui s'étripe dans l'autre poule pour eux aussi accéder aux demi-finales.
Allez, on finit cet instant sport avec la NBA, le match au sommet de ce début de saison, avec Golden State qui reçoit San Antonio. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pronostic. En plus, NBA, on n'est pas des grands, grands spécialistes, donc ça va être
assez drôle. Alors, attendez, je voudrais savoir, il est où le match? Parce que c'est très important.
Eh oui, c'est vrai, non, c'est vrai, il a raison.
Il est à Golden State, ah, il est en Californie.
L'Oracle Arena de Oakland.
L'Oracle Arena.
Bon, victoire de San Antonio de 5 points.
Alors, victoire de plus 5 pour
voilà,
San Antonio.
Plus, voilà.
Entre 5 et 10.
Voilà, non, entre 0 et 5.
Entre 0 et 5.
Voilà.
Ok, Christian, allez.
San Antonio aussi, mais bon, je suis moyennement la NBA. Hein.
D'accord, ouais. Entre 5 et 10, on va dire.
Allez, entre 5 et 10.
Comme ça, c'est
moi, non, entre 0 et 5, moi. Enfin, entre 1 et 5.
0 et 5. 1 et 5, ok.
Et oui, 0 et la prolongation.
C'est vrai. Allez, le capitaine.
Donc, t'es sûr que ça se joue à Golden State?
Mais oui, j'en suis sûr.
T'es sûr? Parce qu'il faut savoir que c'est les deux seules équipes, quand même, qui sont encore invaincues à domicile. Donc,
c'est pour ça.
Donc, c'est hyper important.
Alors.
Donc, du coup, je vais mettre Golden State vainqueur entre 0 et 5 points.
Aussi, oh, ça joue petit. Hein.
Pourquoi vous dites entre 0
non, mais c'est entre 1 et 5.
Non, on ne peut pas dire, c'est trop compliqué. Luc, vas-y, dis-nous.
Il marche dehors.
Dis un chiffre, toi.
Les Warriors, plus de 10 points.
Ouh.
Pourtant, je préfère les Spurs. Mais
c'est ce que j'allais dire aussi.
Ouais. Mais les Warriors sont quand même assez.
C'est vrai que c'est impressionnant.
Allez, le pronostic du jour, attention, Ami Laurent.
C'est Golden State pour moi, qui va gagner avec bien 15 points d'écart. Quoi. Entre 15 et 20, allez, tiens. Ou plus de 15, allez, tiens. Ah oui, faut savoir. Antonio n'est pas terrible à l'extérieur quand même. C'est que des victoires à l'arraché depuis le début de la saison.
Ouais,
et là, c'est quand même.
C'est Golden State meilleure attaque et San Antonio meilleure défense. Hein. Donc ça va.
Ouais,
être,
mais enfin, bon.
Mais écoute, laisse-le.
On en parlera demain.
Comme le dit Phil Jackson, l'ancien entraîneur des Bulls, la défense, l'attaque gagne les matchs et la défense gagne les titres.
C'est un match.
Quand on a Steph Curry sur le terrain, c'est vrai que les stats ne veulent plus rien dire. D'accord.
Ouais.
Il suffit qu'il se blesse au bout de 5 minutes.
Et voilà, c'est plus le même match.
C'est plus le même match. Allez, t'as dit combien? Plus 10, toi?
Plus 10, ouais. Plus de 10 points.
Allez, et toi, entre 0 et 5. Donc, Golden State, entre 5 et 10. Ouais, comme ça, on a tous des paris différents.
Golden State aussi, Aurélien?
Ouais.
D'accord. Ouais.
Ouais, pourtant, je suis fan de San Antonio.
Et on a parié San Antonio, nous, sur la victoire de la saison. À part Portland, San Antonio et... Non.
Les Miami.
Allez, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Ciao, merci les gars.
Bye bye.
Au revoir.
Salut.
Leslie Jones au couloir numéro 2. Allez, Leslie. C'est parti pour Leslie Jones.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme. Bravo.
On est au tunnel.
FM sur Mende avec le 94.1.